France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Paru en 1957 aux éditions de Minuit, la modification était, après Passage de Milan et L'emploi du temps, le troisième roman de Michel Butor. Un roman pour lequel Butor reçut le prix Renaudot, qui avait pour particularité d'être entièrement écrit à la deuxième personne. Butor s'expliquait ainsi sur cette utilisation du « vous ». J'hésitais entre deux formes de récit, la première ou la troisième personne, jusqu'au jour où je me suis dit que la seconde existait aussi et que, d'ailleurs, je n'étais pas le premier à l'employer, que c'était la forme par excellence, aussi bien de la pédagogie que du réquisitoire. Le 6 décembre 1957, Michel Butor présentait la modification sur les ondes de la radiodiffusion télévision française au micro de Paul Chavas.
Ici Paul Chavas de la radiodiffusion télévision française. Michel Butor, l'auteur de Passage de Milan et de L'emploi du temps, vient de faire paraître aux éditions de Minuit un nouveau roman intitulé La modification. Professeur de philosophie, jeune écrivain de 31 ans, Michel Butor est considéré comme un auteur révolutionnaire, c'est-à-dire un auteur qui apporte un souffle tout à fait neuf dans la production littéraire contemporaine. La modification est un roman intelligent et touffu, comme si on s'analysait soi-même, toute objectivité perdue. D'où les phrases longues et complexes de la méditation, ou plutôt d'une sorte de rumination des pensées, des phrases qui nous entraînent comme un fleuve lent, avec ses remous, ses reflets, les mondes qu'il mêle, mais aussi la continuité du flot. L'intrigue de ce livre est très simple. Nous montons dans le train à Paris avec notre héros qui se rend à Rome. Il va annoncer à Cécile, la femme qu'il aime, son intention de la ramener à Paris et de vivre avec elle. Ce faisant, il rompra avec sa femme légitime, Henriette. Mais en arrivant à Rome, le héros sait, et le lecteur avec lui, qu'il ne ramènera pas Cécile à Paris, qu'il n'ira même pas la voir pendant ce séjour qu'il avait décidé de faire à Rome pour elle. La modification, c'est donc ce changement qui se produit à l'intérieur de son esprit et sans que les événements extérieurs fassent pression sur lui.
Oui, mais il y a tout de même des événements extérieurs qui font pression sur lui.
Comment cela ?
Voilà, il est dans ce compartiment de chemin de fer et il voit certaines choses. Il voit les autres occupants du compartiment, par exemple. Il voit les détails du compartiment. Il voit ce qui passe par la fenêtre. Et tout cela, tous ces minuscules événements, si vous voulez, eh bien, vont orienter son esprit dans certaines directions. C'est à cause de toute cette constellation de petits événements qu'il va y avoir une fissure qui va se faire dans son esprit, que sa décision va se défaire.
Mais en même temps, il revit son passé, plusieurs étapes de son passé.
Bien sûr. Si ces petits événements ont une telle importance, c'est parce que lui-même est un personnage qui est déjà fissuré. Mais dans ce voyage, qui est pour lui une interruption de son train de vie ordinaire, qui est une espèce de vacance, alors il va être amené à reprendre en mémoire un certain nombre de souvenirs oubliés, notamment une rencontre qui a déjà eu lieu à Paris entre les deux femmes qui sont dans sa vie. Mais ça, ce n'est encore qu'un premier plan, parce que si ces deux femmes jouent un tel rôle dans son existence, si ces événements se sont produits de cette façon-là, c'est parce que ces deux femmes sont liées pour lui à deux villes, à Paris et à Rome, qui représentent pour lui deux façons de vivre.
Dans ce roman La Modification, vous nous montrez un personnage qui voit tout, aussi bien les choses qui sont un peu éloignées de lui que celles qui tombent immédiatement sous sa vue, comme le paysage qu'il voit par les fenêtres, ou les personnages qui partagent son compartiment. quelle est l'intention qui vous fait ne rien choisir, ne rien sacrifier de la vérité?
Ah, mais je choisis beaucoup. Ça, c'était... On m'a déjà fait plusieurs fois cette remarque. On m'a dit que je ne choisissais rien. Mais c'est tout à fait faux, cela. On me dit que je donnais tous les détails. C'est extraordinaire. On a l'impression que les gens qui disent cela n'ont jamais regardé même l'objet le plus simple. Enfin, on n'a jamais fini de détailler quelque chose. Tous ces détails sont des détails soigneusement choisis. Seulement, ils sont choisis un peu différemment de la façon dont on les choisit d'ordinaire. Alors, de quelle façon ces détails sont-ils choisis? Eh bien, ils sont choisis selon la structure même du roman. Et alors, pour expliquer ça de plus près, enfin, j'aurais beaucoup, beaucoup de difficultés. Il faudrait que je commente, enfin, une page entière, et même je n'y arriverai pas.
Votre roman commence ainsi. Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre, et de votre épaule droite, vous essayez en vain de pousser un peu plus le panneau coulissant. C'est la première fois, me semble-t-il, que dans la littérature française, du moins, un roman est écrit non pas à la première personne, je, ni à la troisième, il, ou on appelle le héros par son nom, mais on s'adresse au public et on lui dit « vous, vous êtes le héros ».
Oui. Alors c'est la première fois que c'est fait systématiquement. C'est la première fois que c'est fait méthodiquement, comme ça. Et l'emploi de cette seconde personne a troublé beaucoup de... Beaucoup de monde.
Oui, mais ça fait tout à fait entrer le lecteur dans
oui,
le bas.
Bien sûr, bien sûr. Oh, ce n'est pas pour rien que j'ai employé la seconde personne. L'emploi de la seconde personne dans la modification correspond d'abord à la solution d'un problème technique. C'est-à-dire qu'il m'aurait été impossible d'écrire ce livre autrement. J'avais besoin de faire voir tout, hein, de faire passer le récit à travers... un personnage à travers le personnage principal. Tout devait être vu, donc, par l'intermédiaire du personnage principal. Je ne pouvais donc pas le voir de l'extérieur à la troisième personne. D'autre part, comme c'est un livre qui raconte une prise de conscience, qui raconte l'aventure d'un homme qui va arriver au langage et à l'écriture, il m'était impossible de lui faire dire « je ». C'est quelque chose de tout à fait différent de se trouver devant une table et de se dire « je me trouve devant une table ». Lorsqu'on emploie le monologue intérieur classique, par classique j'entends de Joyce ou de Faulkner ou de Virginia Woolf, il est impossible de faire sentir cette différence. Il est impossible de faire état de cette différence fondamentale. Donc, j'avais besoin d'un monologue intérieur, en quelque sorte, amélioré. J'avais besoin d'une forme de récit qui se trouva entre la première et la troisième personne. Il y a en français une personne qui correspond à cela, c'est la seconde. Par l'emploi de cette seconde personne, je pouvais faire... raconter les choses par l'intermédiaire d'un personnage, le situer par rapport à ce qu'il voit, à ce qu'il entend, à ce qu'il pense, et dans ce récit, de temps en temps, faire intervenir un « je ». Alors, la seconde personne est donc une solution à un problème technique. D'autre part, la seconde personne a toutes sortes de propriétés différentes des autres et qui posent toutes sortes d'autres problèmes.
Je vais vous demander maintenant de bien vouloir nous lire une page qui montrera justement le processus par lequel les réflexions, les méditations de ce personnage s'enchaînent. Il songe à cet indicateur à couverture bleue qui se trouve entre ses mains et ses pensées s'enchaînent à partir de ce moment-là.
Car vous l'aviez dans votre serviette, cet indicateur à couverture bleue que vous tenez entre vos mains, que vos yeux regardent toujours, mais où ils ne distinguent plus rien pour l'instant. Et après le dîner, juste avant de vous coucher seul dans le grand lit sans Henriette qui ne vous a rejoint que lorsque vous dormiez déjà, vous l'avez rangé dans votre valise au-dessus de ce peu de linge propre que vous avez emporté. Il était comme le talisman, la clé, le gage de votre issue, d'une arrivée dans une Rome lumineuse, de cette cure de jouvence dont le caractère clandestin accentue l'aspect magique, de ce trajet qui va depuis ce cadavre de femme continuant illusoirement des gestes utiles, depuis ce cadavre inquisiteur que vous n'avez si longtemps hésité à quitter que parce qu'il y a les enfants dont chaque jour une vague de plus vous sépare, de telle sorte qu'ils sont là comme des statues de cire d'eux-mêmes, cachant de plus en plus leur vie que vous avez de moins en moins envie de connaître et de partager, depuis cette Henriette avec laquelle il vous est impossible de divorcer parce qu'elle ne s'y résoudrait jamais, parce que, avec votre position, vous voulez éviter tout scandale, la maison Scabelli, italienne, calotine, tartuffe, verrait la chose d'un très mauvais œil. Depuis ce boulet auquel vous êtes enchaîné et qui vous entraînerait aux fonds asphyxiés de cet océan d'ennui, de démission, de routines usantes et ennuageantes, d'inconscience où elle se traîne, si vous n'aviez pas ce salut, Cécile, si vous n'aviez pas cette gorgée d'air, ce surcroît de force, cette main secourable qui se tend vers vous, messagère des régions heureuses et claires, depuis cette lourde ombre tracassière dont vous allez pouvoir enfin vous séparer de fait, jusqu'à cette magicienne qui, par la grâce d'un seul de ses regards, vous délivre de toute cette horrible caricature d'existence, vous rend à vous-même dans un bienfaisant oubli de ces meubles, de ces repas, de ce corps tôt fané, de cette famille harassante. Le gage de cette décision enfin prise de rompre, de vous libérer de tout ce harnais de vains scrupules, de toute cette lâcheté paralysante, d'enseigner à vos enfants aussi cette liberté, cette audace de cette décision qui a illuminé de son reflet, qui vous a permis de traverser sans y succomber, sans renoncer à tout, sans vous perdre à jamais, toute cette semaine de chiffres, de règlements et de signatures, cette semaine de pluie, de crises et de malentendus. Le gage de ce voyage secret pour Henriette, parce que, si vous lui aviez bien dit à elle que vous alliez à Rome, vous lui aviez caché vos raisons véritables. Secret pour Henriette qui ne sait que trop bien pourtant qu'il y a derrière ce changement d'horaire un secret, votre secret, dont elle sait bien qu'il a nom, Cécile, de telle sorte que l'on ne peut pas dire vraiment que vous la trompiez sur ce point, de telle sorte que vos mensonges à son égard ne sont pas complètement des mensonges, ne pouvaient être complètement des mensonges, puisqu'ils sont malgré tout, on a le droit de les considérer sous cet angle, une étape nécessaire vers la clarification de vos rapports, vers la sincérité entre vous, si profondément obscurcie pour l'instant, vers sa délivrance à elle aussi dans sa séparation d'avec vous, vers sa libération à elle aussi dans une certaine faible mesure. Secret parce que l'on ignore, avenue de l'Opéra, votre destination, parce que nul courrier ne pourra vous y rejoindre, alors que d'habitude, lorsque vous arrivez à l'hôtel Quirinal, déjà des lettres et des télégrammes vous y attendent, si bien que, pour la première fois depuis des années, ces quelques jours de vacances seront une véritable détente, comme au temps où vous n'aviez pas encore vos responsabilités actuelles, où vous n'aviez pas encore vraiment réussi. Secret parce que chez Scabelli, sur le Corso, personne ne sait que vous serez à Rome de samedi matin à lundi soir, et que personne ne doit s'en apercevoir quand vous y serez, ce qui vous obligera à prendre quelques précautions de peur de risquer d'être reconnu par quelqu'un de ses employés si complaisant, si empressé, si familier. Secret même pour Cécile en ce moment, puisque vous ne l'avez pas prévenu de votre arrivée, voulant jouir de sa surprise.
Monsieur Butor, je vous remercie. Ici Paul Chavas, de la Radiodiffusion Télévision Française.
Vous venez d'entendre Michel Butor présenter son roman « La Modification » le 6 décembre 1957 sur les ondes de la Radiodiffusion Télévision Française.